Chapitre 14. Le mari et l'amant. Comment Chico commença de voir clair dans la lettre de Monsieur de Guise. Ce ne fut pas sans une puissante émotion que Chico revit la rue des Augustins, si calme et si déserte, l'angle formé par le pâté de maison qui précédait la sienne, enfin sa chère maison elle-même avec son toit triangulaire, son balcon vermoulu et ses gouttières ornées de gargouilles. Il avait eu tellement peur de ne trouver qu'un vide à la place de cette maison, il avait si fort redouté de voir la rue bronzée par la fumée d'un incendie, que rue et maison lui parurent des prodiges de netteté, de grâce et de splendeur. Chico avait caché dans le creux d'une pierre servant de base à l'une des colonnes de son balcon la clé de sa maison chérie. En ce temps-là, une clé quelconque de coffre ou de meuble égalait en pesanteur et en volume les plus grosses clés de nos maisons d'aujourd'hui. Les clés des maisons étaient donc, d'après les proportions naturelles, égales à des clés de villes modernes. Aussi Chico avait-il calculé la difficulté qu'aurait sa poche à contenir la bienheureuse clé et avait-il pris le parti de la cacher où nous avons dit. Et Chico éprouvait donc, il faut l'avouer, un léger frisson en plongeant les doigts dans la pierre. Ce frisson fut suivi d'une joie sans pareille lorsqu'il sentit le froid du fer. La clé était bien réellement à la place où Chico l'avait laissée. Il en était de même des meubles de la première chambre, de la planchette clouée sur la poutre, et enfin des 1000 écus sommeillant toujours dans leur cachette de chêne. Chico n'était point un avare. Tout au contraire, souvent même il avait jeté l'or à pleine main, sacrifiant ainsi le matériel au triomphe de l'idée, ce qui est la philosophie de tout homme d'une certaine valeur. Mais quand l'idée avait cessé, momentanément, de commander à la matière, c'est-à-dire lorsqu'il n'y avait pas besoin d'argent, de sacrifice, lorsqu'en un mot, l'intermittence sensuelle régnait dans l'âme de Chico et que cette âme permettait au corps de vivre et de jouir, l'or, cette première, cette incessante, cette éternelle source de jouissances animales, reprenait sa valeur aux yeux de notre philosophe, et nul mieux que lui ne savait en combien de parcelles savoureuses se subdivise cet inestimable entier qu'on appelle un écu. « Ventre de biche !» murmurait Chico, accroupi au milieu de sa chambre, sa dalle ouverte, sa planchette à côté de lui et son trésor sous les yeux. « Ventre de biche, j'ai là un bienheureux voisin, digne jeune homme, qui a fait respecter et a respecté lui-même mon argent. En vérité, c'est une action qui n'a pas de prix par le temps qui court. Mordieu, je dois un remerciement à ce galant homme et ce soir il l'aura. » Et là-dessus, Chico replaça sa planchette sur la poutre, sa dalle sur la planchette, s'approcha de la fenêtre et regarda en face. La maison avait toujours cette teinte grise et sombre que l'imagination prête comme une couleur de teinte naturelle aux édifices dont elle connaît le caractère. « Il ne doit pas encore être l'heure de dormir, » dit Chico, « et d'ailleurs ces gens-là, j'en suis certain, ne sont pas de bien enragés dormeurs. Voyons. » Il descendit et alla, préparant toutes les gracieusetés de sa mine riante, frapper à la porte du voisin. Il remarqua le bruit de l'escalier, le craquement d'un pas actif, et attendit cependant assez longtemps pour se croire obligé de frapper de nouveau. À ce nouvel appel, la porte s'ouvrit et un homme parut dans l'ombre. « Merci et bonsoir, » dit Chico en étendant la main. « Me voici de retour et je viens vous rendre grâce, mon cher voisin. »« Plaît-il ? » fit une voix désappointée et dont l'accent surprit fort Chico. En même temps, l'homme qui était venu ouvrir la porte faisait un pas en arrière. « Tiens, je me trompe, » dit Chico, « ce n'est pas vous qui étiez mon voisin au moment de mon départ. Et cependant, Dieu me pardonne, je vous connais. »« Et moi aussi, » dit le jeune homme, « vous êtes monsieur le vicomte Ernoton de Carminges. Et vous, vous êtes l'ombre. »« En vérité, » dit Chico, « je tombe des nues. » « Enfin, que désirez-vous, monsieur ?» demanda le jeune homme avec un peu d'aigreur. « Pardon, je vous dérange peut-être, mon cher monsieur. »« Non, seulement vous me permettrez de vous demander, n'est-ce pas, ce qu'il y a pour votre service. »« Rien, sinon que je voulais parler au maître de la maison. Parlez, alors. Comment cela? Sans doute, le maître de la maison, c'est moi. Vous? Et depuis quand, je vous prie? Dame, depuis 3 jours. Bon, la maison était donc à vendre. Il paraît, puisque je l'ai achetée. Mais l'ancien propriétaire ne l'habite plus, comme vous voyez. Où est-il? Je n'en sais rien. Voyons, entendons-nous bien, dit Chicot. Je ne demande pas mieux, répondit Arnoton, avec une impatience visible, seulement entendons-nous vite. L'ancien propriétaire était un homme de 25 à 30 ans, qui en paraissait 40. Non, c'était un homme de 65 à 66 ans, qui paraissait son âge. Chauve? Non, au contraire, avec une forêt de cheveux blancs. Il a une cicatrice énorme du côté gauche de la tête, n'est-ce pas? Je n'ai pas vu la cicatrice, mais bon nombre de rides. Je n'y comprends plus rien, fit Chicot. Enfin, reprit Arnoton après un instant de silence, que vouliez-vous à cet homme, mon cher monsieur, l'ombre? Chicot allait avouer ce qu'il venait faire. Tout à coup, le mystère de la surprise d'Arnoton lui rappela certains proverbes chers aux gens discrets. « Je voulais lui rendre une petite visite, comme cela se fait entre voisins, dit-il, voilà tout. » De cette façon, Chicot ne mentait pas et ne disait rien. « Mon cher monsieur, dit Arnoton avec politesse, mais en diminuant considérablement l'ouverture de la porte qu'il tenait entrebâillée, mon cher monsieur, je regrette de ne pouvoir vous donner des renseignements plus précis. »« Merci, monsieur, dit Chicot, je chercherai ailleurs. » Mais, continua Arnoton, en continuant de repousser la porte, cela ne m'empêche point de m'applaudir du hasard qui me remet en contact avec vous. Tu voudrais me voir au diable, n'est-ce pas? Murmura Chicot en rendant salut pour salut. Cependant, comme malgré cette réponse mentale, Chicot, dans sa préoccupation, oubliait de se retirer, Arnoton, en fermant son visage entre la porte et le chambranle, lui dit « Bien au revoir, monsieur. »« Un instant encore, monsieur de Carmin, » je fis Chicot. « Monsieur, c'est à mon grand regret, » répondit Arnoton, « mais je ne saurais tarder. J'attends quelqu'un qui doit venir frapper à cette porte même, et ce quelqu'un m'en voudrait de ne pas mettre toute la discrétion possible à le recevoir. » « Il suffit, monsieur, je comprends, » dit Chicot, « pardon de vous avoir importuné, et je me retire. » « Adieu, cher monsieur l'ombre. Adieu, digne monsieur Arnoton. » Et Chicot, en faisant un pas en arrière, se vit doucement fermer la porte au nez. Il écouta pour voir si le jeune homme défiant guettait son départ, mais le pas d'Arnoton remonta l'escalier. Chicot put donc regagner sans inquiétude sa maison, dans laquelle il s'enferma, bien résolu à ne pas troubler les habitudes de son nouveau voisin, mais selon son habitude à lui, à ne pas trop le perdre de vue. En effet, Chicot n'était pas homme à s'endormir sur un fait qui lui paraissait de quelque importance, sans avoir palpé, retourné, disséqué ce fait avec la patience d'un anatomiste distingué. Malgré lui, c'était un privilège ou un défaut de son organisation, malgré lui, toute forme incrustée en son cerveau se présentait à l'analyse par ses côtés saillants, de façon que les parois cérébrales du pauvre Chicot en étaient blessées, gercées et sollicitées à un examen immédiat. Chicot, qui jusque-là avait été préoccupé de cette phrase de la lettre du duc de Guise « J'approuve entièrement votre plan à l'égard des 45 », abandonna donc cette phrase dont il se promit de reprendre plus tard l'examen pour couler à fond, séance tenante, la préoccupation nouvelle qui venait de prendre la place de l'ancienne préoccupation. Chicot réfléchit qu'il était on ne peut plus étrange de voir Arnoton s'installer en maître dans cette maison mystérieuse dont les habitants avaient ainsi disparu tout à coup. D'autant plus qu'à ses habitants primitifs pouvait bien se rattacher pour Chicot une phrase de la lettre du duc de Guise relative au duc d'Anjou. C'était là un hasard digne de remarque, et Chicot avait pour habitude de croire au hasard providentiel. Il développait même à cet égard, lorsqu'on l'en sollicitait, des théories fort ingénieuses. La base de ces théories était une idée qui, à notre avis, en valait bien une autre. Cette idée, la voici. Le hasard est la réserve de Dieu. Le Tout-Puissant ne fait donner sa réserve qu'en des circonstances graves, surtout depuis qu'il a vu les hommes assez sagaces pour étudier et prévoir les chances d'après la nature et les éléments régulièrement organisés. Or, Dieu aime ou doit aimer à déjouer les combinaisons de ces orgueilleux, dont il a déjà puni l'orgueil passé en les noyant et dont il doit punir l'orgueil à venir en les brûlant. Dieu donc, disons-nous, ou plutôt disait Chico, Dieu aime à déjouer les combinaisons de ces orgueilleux avec les éléments qui leur sont inconnus et dont ils ne peuvent prévoir l'intervention. Cette théorie, comme on le voit, renferme de spécieux arguments et peut fournir de brillantes thèses. Mais sans doute le lecteur, pressé comme Chico de savoir ce que venait faire Carminges dans cette maison, nous saura gré d'en arrêter le développement. Donc Chico réfléchit qu'il était étrange de voir Ernoton dans cette maison où il avait vu Remy. Il réfléchit que cela était étrange pour deux raisons. La première, à cause de la parfaite ignorance où les deux hommes vivaient l'un de l'autre, ce qui faisait supposer qu'il devait y avoir entre eux un intermédiaire inconnu à Chico. La seconde, parce que la maison avait dû être vendue à Ernoton, qui n'avait pas d'argent pour l'acheter. Il est vrai, se dit Chico, en s'installant le plus commodément qu'il put sur sa gouttière, son observatoire ordinaire, il est vrai que le jeune homme prétend qu'une visite va lui venir, et que cette visite est celle d'une femme. Aujourd'hui, les femmes sont riches et se permettent des fantaisies. Ernoton est jeune, beau, élégant. Ernoton a plu. On lui a donné rendez-vous, on lui a dit d'acheter cette maison. Il a acheté la maison et accepté le rendez-vous. Ernoton, continua Chico, vit à la cour. Ce doit donc être quelque femme de la cour à laquelle il a affaire. Pauvre garçon, l'aimera-t-il? Ah, Dieu l'en préserve, il va tomber dans ce gouffre de perdition. Bon, ne vais-je pas lui faire de la morale, moi? De la morale doublement inutile et décuplement stupide. Inutile parce qu'il ne l'entend point, et que, l'entendit-il, il ne voudrait pas l'écouter. Stupide, parce que je ferais mieux d'aller me coucher et de penser un peu à ce pauvre Borromée. À ce propos, continua Chico, devenu sombre, je m'aperçois d'une chose, c'est que le remords n'existe pas et n'est qu'un sentiment relatif. Le fait est que je n'ai pas de remords d'avoir tué Borromée, puisque la préoccupation où me met la situation de monsieur de Carminges me fait oublier que je l'ai tué. Et lui, de son côté, s'il m'eût cloué sur la table comme je l'ai cloué contre la cloison, lui n'aurait certes pas à cette heure plus de remords que je n'en ai moi-même. Chico en était là, dans ses raisonnements, de ses instructions et de sa philosophie, qui lui avait bien pris 1 heure et demie en tout, lorsqu'il fut tiré de sa préoccupation par l'arrivée d'une litière venant du côté de l'hôtellerie du Fier Chevalier. Cette litière s'arrêta au seuil de la maison mystérieuse. Une dame voilée en descendit et disparut par la porte qu'Ernoton tenait entr'ouverte. Pauvre garçon, murmura Chico, je ne m'étais pas trompé, et c'était bien une femme qui l'attendait. Et là-dessus, je m'en vais dormir. Et là-dessus, Chico se leva, mais restant immobile, quoique debout, hein, je me trompe, dit-il, je ne dormirai pas. Mais je maintiens mon dire, si je ne dors pas, ce ne sera point le remords qui m'empêchera de dormir, ce sera la curiosité. Et si c'est vrai ce que je dis là, que si je demeure à mon observatoire, je ne serai préoccupé que d'une chose, c'est à savoir laquelle de nos nobles dames honore le bel Ernoton de son amour. Mieux vaut donc que je reste à mon observatoire, puisque si j'allais me coucher, je me relèverais certainement pour y revenir. Et là-dessus, Chico se rassit. 1 heure s'était écoulée à peu près sans que nous puissions dire si Chico pensait à la dame inconnue ou à Borromée, s'il était préoccupé par la curiosité ou bourrelé par le remords, lorsqu'il crut entendre au bout de la rue le galop d'un cheval. En effet, bientôt un cavalier apparut enveloppé de son manteau. Le cavalier s'arrêta au milieu de la rue et sembla chercher à se reconnaître. Alors le cavalier aperçut le groupe que formaient la litière et les porteurs. Le cavalier poussa son cheval sur eux. Il était armé, car on entendait son épée battre sur ses éperons. Les porteurs voulurent s'opposer à son passage, mais il leur adressa quelques mots à voix basse, et non seulement ils s'écartèrent respectueusement, mais encore l'un d'eux, dès qu'il eut mis pied à terre, reçut de ses mains les brides de son cheval. L'inconnu s'avança vers la porte et y heurta rudement. « Tudieu, se dit Chicot, que j'ai bien fait de rester. Mes pressentiments, qui m'annonçaient qu'il allait se passer quelque chose, ne m'avaient point trompé. Voilà le mari, pauvre Ernoton, nous allons assister tout à l'heure à quelque égorgement. Cependant, si c'est le mari, il est bien bon d'annoncer son retour en frappant si rudement. » Toutefois, malgré la façon magistrale dont avait frappé l'inconnu, on paraissait hésiter à ouvrir. « Ouvrez !» cria celui qui heurtait. « Ouvrez, ouvrez !» répétèrent les porteurs. Décidément, reprit Chicot, c'est le mari. Il a menacé les porteurs de les faire fouetter ou pendre, et les porteurs sont pour lui. Pauvre Ernoton, il va être écorché vif. « Oh, si je le souffre, cependant, ajouta Chicot, car enfin, reprit-il, il m'a secouru, et par conséquent, le cas échéant, je dois le secourir. Il me semble que le cas est échu ou n'échouera jamais. » Chicot était résolu et généreux, curieux en outre. Il détacha sa longue épée, la mit sous son bras, et descendit précipitamment son escalier. Chicot savait ouvrir sa porte sans la faire crier, ce qui est une science indispensable à quiconque veut écouter avec profit. Chicot se glissa sous le balcon, derrière un pilier, et attendit. À peine était-il installé que la porte s'ouvrit en face, sur un mot que l'inconnu souffla par la serrure. Cependant, il demeura sur le seuil. Un instant après, la dame apparut dans l'encadrement de cette porte. La dame prit le bras du cavalier, qui la reconduisit à la litière, enferma la porte et monta à cheval. « Pas de doute, c'était le mari, dit Chicot. Bonne patte de mari, après tout, puisqu'il ne cherche pas un peu dans la maison pour faire éventrer mon ami Carminge. » La litière se mit en route, le cavalier marchant à la portière. « Par Dieu, se dit Chicot, il faut que je suive ces gens-là, que je sache ce qu'ils sont et où ils vont. » Je tirerai certainement de ma découverte quelques solides conseils pour mon ami de Carminge. » Chicot suivit en effet le cortège en observant cette précaution de demeurer dans l'ombre des murs et d'éteindre son pas dans le bruit du pas des hommes et des chevaux. La surprise de Chicot ne fut pas médiocre lorsqu'il vit la litière s'arrêter devant l'auberge du fier chevalier. Presque aussitôt, comme si quelqu'un eût veillé, la porte s'ouvrit. La dame, toujours voilée, descendit, entra et monta dans la tourelle, dont la fenêtre du premier étage était éclairée. Le mari monta derrière elle. Le tout était respectueusement précédé de dame Fournichon, laquelle tenait à la main un flambeau. « Décidément, dit Chicot, en se croisant les bras, je n'y comprends plus rien. » Chicot croyait bien avoir déjà vu quelque part la tournure de ce cavalier si complaisant, mais sa mémoire s'étant un peu embrouillée pendant ce voyage de Navarre, où il avait vu tant de tournures différentes, ne lui fournissait pas, avec sa facilité ordinaire, le nom qu'il désirait prononcer. Tandis que, caché dans l'ombre, il se demandait, les yeux fixés sur la fenêtre illuminée, ce que cet homme et cette femme étaient venus faire en tête-à-tête au fier chevalier, oubliant Ernoton dans la maison mystérieuse, notre digne Gascon vit s'ouvrir la porte de l'hôtellerie, et dans le sillon de lumière qui s'échappa de l'ouverture, il aperçut comme une silhouette noire de moignon. Cette silhouette s'arrêta un instant pour regarder la même fenêtre que Chicot regardait. « Oh, murmura-t-il, voilà, ce me semble, une robe de Jacobin. Maître Goranflot se relâche-t-il donc sur la discipline qu'il permet à ses moutons d'aller vagabonder à pareille heure de la nuit et à pareille distance du prieuré ?» Chicot suivit des yeux ce Jacobin pendant qu'il descendait la rue des Augustins. Et un certain instinct particulier lui dit qu'il trouverait dans ce moine le mot de l'énigme qu'il avait vainement demandé jusque-là. D'ailleurs, de même que Chicot avait cru reconnaître la tournure du cavalier, il croyait reconnaître dans le moignon certains mouvements d'épaules, certains déhanchements militaires qui n'appartenaient qu'aux habitués des salles d'armes et des gymnases. Je veux être damné, murmura-t-il, si cette robe-là ne renferme point ce petit mécréant qu'on voulait me donner pour compagnon de route et qui manie si habilement l'arquebuse et le fleuret. À peine cette idée fut-elle venue à Chicot que, pour s'assurer de sa valeur, il ouvrit ses grandes jambes et rejoignit en 10 pas le petit compère qui marchait, retroussant sa robe sur sa jambe sèche et nerveuse pour aller plus vite. Cela ne fut pas trop difficile, d'ailleurs, attendu que le moinillon s'arrêtait de temps en temps pour jeter un regard derrière lui, comme s'il s'éloignait à grand-peine et avec un profond regret. Ce regard était constamment dirigé vers les vitres flamboyantes de l'hôtellerie. Chicot n'avait pas fait 10 pas qu'il était certain de ne pas s'être trompé dans ses conjectures. « Holà, petit compère, dit-il, holà, mon petit Jaco, voilà mon petit Clément, halte !» Et il prononça ce dernier mot d'une façon si militaire que le moinillon en tressaillit. « Qui m'appelle ?» demanda le jeune homme avec un accent rude et plus provocateur que bienveillant. « Moi !» répliqua Chicot en se dressant devant le Jacobin. « Moi, me reconnais-tu, mon fils ?»« Oh, monsieur Robert Briquet !» s'écria le moinillon. « Moi-même, petit, et où vas-tu, comme cela, si tard, enfant chéri ?»« Au prieuré, monsieur Briquet. » « Soit, mais d'où viens-tu »« Moi ? Et sans doute, petit libertin !» Le jeune homme tressaillit. « Je ne sais pas ce que vous dites, monsieur Briquet, reprit-il. Je suis au contraire envoyé en commission importante par Don Modeste, et lui-même en fera foi près de vous, si besoin est. » « Là, là, tout doux, mon petit Saint-Jérôme, nous prenons feu comme une mèche à ce qu'il paraît. N'y a-t-il pas de quoi, lorsqu'on s'entend dire ce que vous me dites ?»« Dame, c'est que, vois-tu, une robe comme la tienne, sortant d'un cabaret, à pareille heure. » « D'un cabaret, moi ?»« Et sans doute, cette maison d'où tu sors n'est pas celle du fier chevalier. Ah, tu vois bien que je t'y prends. » « Je sortais de cette maison, dit Clément, vous avez raison, mais je ne sortais pas d'un cabaret. »« Comment, fit Chicot, l'hôtellerie du fier chevalier n'est-elle pas un cabaret ?»« Un cabaret est une maison où l'on boit, et comme je n'ai pas bu dans cette maison n'est point un cabaret pour moi. » Diable, la distinction est subtile, et je me trompe fort, ou tu deviendras un jour un rude théologien. Mais enfin, si tu n'allais pas dans cette maison pour y boire, pourquoi donc y allais-tu ? Clément ne répondit rien, et Chicot put lire sur sa figure, malgré l'obscurité, une ferme volonté de ne pas dire un seul mot de plus. Cette résolution contraria fort notre ami, qui avait pris l'habitude de tout savoir. Ce n'était pas que Clément mit de l'aigreur dans son silence, bien au contraire, il avait paru charmé de rencontrer d'une façon si inattendue son savant professeur d'armes, maître Robert Briquet, et lui avait fait tout l'accueil qu'on pouvait attendre de cette nature concentrée et revêche. La conversation était complètement tombée. Chicot, pour la renouer, fut sur le point de prononcer le nom de frère Borromée, mais quoique Chicot n'eût point de remords ou ne crût pas en avoir, ce nom expira sur ses lèvres. Le jeune homme, tout en demeurant muet, semblait attendre quelque chose. On eût dit qu'il regardait comme un bonheur de rester le plus longtemps possible aux environs de l'hôtellerie du fier chevalier. Robert Briquet essaya de lui parler de ce voyage que l'enfant avait eu un instant l'espoir de faire avec lui. Les yeux de Jacques Clément brillèrent aux mots d'espace et de liberté. Robert Briquet raconta que dans le pays qu'il venait de parcourir, l'escrime était fort en honneur. Il ajouta négligemment qu'il en avait même rapporté quelques coups merveilleux. C'était maître Jacques sur un terrain brûlant. Il demanda à connaître ses coups, et Chicot, avec son long bras, en dessina quelques-uns sur le bras du petit frère. Mais tous ces marivaudages de Chicot n'amollirent point l'opiniâtreté du petit Clément, et tout en essayant de parer ces coups inconnus que lui montrait son ami maître Robert Briquet, il garda un silence obstiné à l'endroit de tout ce qu'il était venu faire dans le quartier. Dépité, mais maître de lui, Chicot résolut d'essayer de l'injustice. L'injustice est une des plus puissantes provocations qui ait été inventée pour faire parler les femmes, les enfants et les inférieurs, de quelque nature qu'ils soient. Ah, n'importe, petit, dit-il, comme s'il revenait à son idée première, n'importe, tu es un charmant moignon, mais tu vas dans les hôtelleries. Et dans quelles hôtelleries encore? Dans celles où l'on trouve de belles dames, et tu t'arrêtes en extase devant la fenêtre où l'on peut voir leur ombre. Ah, petit, petit, je le dirai à ton modeste. Le coup frappa juste. Plus juste même que ne l'avait supposé Chicot, car il ne se doutait pas, en commençant, que la blessure dût être si profonde. Jacques se retourna, pareil à un serpent que l'on foule aux pieds. Ce n'est pas vrai, s'écria-t-il, rouge de honte et de colère. Je ne regarde point les femmes. Si fait, poursuivit Chicot. Il y avait au contraire une fort belle dame au fier chevalier lorsque tu en es sorti, et tu t'es retourné pour la voir encore, et je sais que tu l'attendais dans la tourelle, et je sais que tu lui as parlé. Chicot procédait par induction. Jacques ne put se contenir. Sans doute, je lui ai parlé, s'écria-t-il. Est-ce un péché que de parler aux femmes? Non, lorsqu'on ne leur parle pas de son propre mouvement et poussé par la tentation de Satan. Satan n'a rien à faire dans tout ceci. Il a bien fallu que je parle à cette dame puisque j'étais chargé de lui remettre une lettre. Chargé par Don Modeste, s'écria Chicot. Oui, allez donc vous plaindre à lui maintenant. Chicot, un moment étourdi et tâtonnant dans les ténèbres, sentit à ces paroles un éclair traverser l'obscurité de son cerveau. Ah, dit-il, je le savais bien, moi. Que saviez-vous? Ce que tu ne voulais pas me dire. Je ne dis pas même mes secrets, à plus forte raison les secrets des autres. Oui, mais à moi. Pourquoi à vous? À moi, qui suis ami de Don Modeste, et puis à moi, après, à moi qui sais d'avance tout ce que tu pourrais me dire. Le petit Jacques regarda Chicot en secouant la tête avec un sourire d'incrédulité. Eh bien, dit Chicot, veux-tu que je te raconte, moi, ce que tu ne veux pas me raconter? Je le veux bien, dit Jacques. Chicot fit un effort. D'abord, dit-il, ce pauvre Borromée. La figure de Jacques s'assombrit. Oh! dit l'enfant, si j'avais été là, si tu avais été là, la chose ne se serait point passée ainsi. Tu l'aurais défendu contre les Suisses avec lesquels il avait pris querelle, je l'eusse défendu contre tout le monde, de sorte qu'il n'eût pas été tué, ou que je me fusse fait tuer avec lui. Enfin, tu n'y étais pas, de sorte que le pauvre diable ait trépassé dans une méchante hôtellerie et en trépassant a prononcé le nom de Modeste. Oui, si bien qu'on a prévenu, Don Modeste, un homme tout effaré qui a jeté l'alarme dans tout le couvent. Et Don Modeste a fait appeler sa litière et a couru à la corne d'abondance. D'où savez-vous cela? Oh, tu ne me connais pas encore, petit. Je suis un peu sorcier, moi. Jacques recula de 2 pas. Ce n'est pas tout, continua Chicot, qui s'éclaircit à mesure qu'il parlait à la propre lumière de ses paroles. On a trouvé une lettre dans la poche du mort. Une lettre, c'est ça. Et Don Modeste a chargé son petit Jacques de porter cette lettre à son adresse. Oui. Et le petit Jacques a couru à l'instant même à l'hôtel de Guise. Oh! Où il n'a trouvé personne. Bon Dieu! Que monsieur de Menneville! Miséricorde! Lequel monsieur de Menneville a conduit Jacques à l'hôtellerie du fier chevalier? Monsieur Briquet, s'écria Jacques, si vous savez cela! Eh, ventre de biche, tu vois bien que je le sais, s'écria Chicot, triomphant d'avoir dégagé cet inconnu, si important pour lui, des langes ténébreux où il était enveloppé d'abord. Alors, reprit Jacques, vous voyez bien, monsieur Briquet, que je ne suis pas coupable. Non, dit Chicot, tu n'es pas coupable par action ni par omission, mais tu es coupable par pensée. Moi? Eh, sans doute tu trouves la duchesse fort belle. Moi? Et tu retournes pour la voir encore à travers les carreaux. Moi! Le moignon rougit et balbutia. C'est vrai, elle ressemble à une Vierge Marie qui était au chevet de ma mère. Oh, murmura Chicot, combien perdent de choses les gens qui ne sont pas curieux. Alors il se fit raconter par le petit Clément, qu'il tenait désormais à sa discrétion, tout ce qu'il venait de raconter lui-même, mais cette fois avec des détails qu'il ne pouvait savoir. Vois-tu, dit Chicot quand il eut fini, quel pauvre maître d'escrime tu avais dans frère Borromée. Monsieur Briquet, fit le petit Jacques, il ne faut pas dire du mal des morts. Non, mais avoue une chose. Laquelle? C'est que Borromée tirait moins bien que celui qui l'a tué. C'est vrai. Et maintenant, voilà tout ce que j'avais à te dire. Bonsoir, mon petit Jacques, à bientôt, et si tu veux. Quoi, maître Briquet? Eh bien, c'est moi qui te donnerai des leçons d'escrime à l'avenir. Oh, bien volontiers! Maintenant, en route, petit, car on t'attend avec impatience au prieuré. Ah, c'est vrai, merci, monsieur Briquet, de m'en avoir fait souvenir. Et le moinillon disparut en courant. Ce n'était pas sans raison que Chicot avait congédié son interlocuteur. Il en avait tiré tout ce qu'il voulait savoir, et d'un autre côté, il lui restait encore quelque chose à apprendre. Il rejoignit donc à grands pas sa maison. La litière, les porteurs et le cheval étaient toujours à la porte du fier chevalier. Il regagna sans bruit sa gouttière. La maison, située en face de la sienne, était toujours éclairée. Dès lors, il n'eut plus de regard que pour cette maison. Il vit d'abord par la fente d'un rideau passer et repasser Arnoton, qui paraissait attendre avec impatience. Puis il vit revenir la litière, il vit partir Menneville, enfin il vit entrer la duchesse dans la chambre où palpitait Arnoton plutôt qu'il ne respirait. Arnoton s'agenouilla devant la duchesse, qui lui donna sa blanche main à baiser. Puis la duchesse releva le jeune homme et le fit asseoir devant elle à une table élégamment servie. C'est singulier, dit Chicot, cela commençait comme une conspiration et cela finit comme un rendez-vous d'amour. Oh, continua Chicot, mais qui l'a donné ce rendez-vous d'amour? Madame de Montpensier. Et puis, s'éclairant à une lumière nouvelle, oh, murmura-t-il, chère sœur, j'approuve votre plan à l'égard des 45. Permettez-moi de vous dire seulement que c'est bien de l'honneur que vous ferez à ces drôles-là. Un ventre de biche, s'écria Chicot. J'en reviens à ma première idée. Ce n'est pas de l'amour, c'est une conspiration. Madame la duchesse de Montpensier aime monsieur Arnoton de Carminges. Surveillons les amours de madame la duchesse. Et Chicot surveilla jusqu'à minuit et demi, heure à laquelle Arnoton s'enfuit, le manteau sur le nez, tandis que madame la duchesse de Montpensier remontait en litière. Maintenant, murmura Chicot en descendant son escalier, quelle est cette chance de mort qui doit délivrer le duc de Guise de l'héritier présomptif de la couronne? Quels sont ces gens que l'on croyait morts et qui sont vivants? Mordieu, je pourrais bien être sur la trace.